Préparez-vous, préparez vos oreilles. Ok.
Ce framework du futur qui nous fait créer des sites à vive allure, super rapide et costaud. C'est Astro le framework tout beau. Cet outil pour les devs qui nous permet de coder nos rêves tout léger comme il faut. C'est Astro au top niveau. Et voilà.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Full Stack Sentimental. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter quelques petites actualités qui se sont passées le mois dernier. Donc je fais cette petite chose qui s'appelle les news from last month sur un de mes sites. Et donc il y a quelques éléments qui sont intéressants à mentionner. Donc le premier article, ça vient de developer.mozilla.org à propos du changement des styles pour les titres H1. Parce qu'il y avait des différences dans les titres en fonction de comment ils étaient placés dans les sections, par exemple. Et donc maintenant, ils vont tous avoir la même taille. Donc ça va arriver bientôt, ça changera, donc il faut faire attention. On peut déjà se préparer un peu en étant certain d'utiliser nos styles à nous, ou alors faire confiance au navigateur, ça peut être bien aussi, en fonction de ce que vous faites sur votre site. Il y a aussi, alors c'est un épisode sur Astro, mais il y a une actualité dans Astro 5.7, qui me paraît assez importante, c'est que maintenant les SVG qu'on va importer, ils peuvent être utilisés comme des composants. Avant, il fallait importer le SVG et le mettre dans une image, bon, ça c'est pas ouf, ou alors le mettre directement en HTML, ou alors le mettre dans un composant Astro et importer le composant Astro, mais c'était pas super pratique. Mais maintenant, on peut vraiment importer un SVG et l'utiliser comme un composant et lui mettre les propriétés du SVG. Ça va éviter un peu quelques. De passer par un composant intermédiaire ou de le mettre directement dans l'HTML pour pouvoir faire des trucs. Donc ça va quand même contribuer, je pense, à bien découper certaines choses, parce que les SVG, c'est toujours un peu verbeux. Un article qui s'appelle « Open source is just that ». Quand je travaillais chez SonarSource, effectivement, SonarCube, c'était open source, mais on n'acceptait pas forcément les contributions. Et ça peut être un peu frustrant pour le public, mais ça peut... D'open source, ça veut bien dire ce que c'est. C'est que là, on peut consulter la source. Donc sur SonarCube, on pouvait consulter la source. Par contre, les contributions, c'était plus compliqué à faire parce que c'était pas forcément dans la vision, c'était pas forcément dans ce qu'on voulait faire immédiatement, voire plus tard. Et puis les bugs, rentrer dans le code d'un gros projet comme ça, c'était pas forcément évident. Et cet article-là, il représente bien un peu ces choses-là. Donc l'open source, ça ne veut pas dire que c'est ouvert aux contributions, ça ne veut pas dire qu'il y a du support, ça ne veut pas dire qu'on peut demander des choses, ça ne veut pas dire que les gens vont nous donner du temps, etc. Et en parallèle de cette histoire d'open source, il y a le projet Curl, qui est un projet très connu, qui se bat actuellement contre toutes les IA qui envoient des rapports de bugs complètement nuls. Voilà, donc il faut prendre soin un petit peu de nos projets open source et des contributeurs et contributrices. Toujours un peu lié à l'open source, un article sur le blog de Sphere qui était très intéressant à propos de la licence AGPL. Quand j'ai des trucs à faire, moi c'est la licence vers laquelle j'aurais tendance à aller, je pense. Mais je vous laisse lire l'article pour pouvoir creuser un petit peu parce que c'était très intéressant. Et une dernière chose à propos de AMP et pourquoi les emails ne sont pas et ne devraient jamais être interactifs. AMP, c'était un truc poussé par Google pour essayer d'avoir des sites plus performants en volant le contenu des gens et en les mettant sur leur domaine à eux. Et puis aussi pour faire des emails interactifs, ça a pas vraiment pris. C'est plus ou moins abandonné maintenant, je crois, et tant mieux, parce qu'on n'a pas besoin de passer par ces trucs-là pour avoir des sites performants, on a d'autres choses à faire. Cet article est très intéressant parce qu'il y a tout l'historique, et puis du coup, pourquoi ça ne marche pas, et tant mieux, quoi. Et la fin, bah, on ne peut pas tuer ou changer réellement quelque chose qui a duré aussi longtemps que l'email. Voilà. C'était intéressant. Voilà pour les petites actualités du mois dernier. Je voudrais vous parler un petit peu d'astro parce que c'est un outil que j'aime beaucoup. Moi, j'ai toujours été assez attiré par les générateurs de sites statiques. C'était un peu mon exercice de to-do list à moi quand j'avais envie de tester un langage. Par exemple, j'ai voulu jouer avec Crystal. J'ai fait un générateur de sites statiques en Crystal. J'ai voulu jouer avec Node il y a longtemps. Bah, j'avais fait mon générateur de sites statiques en Node. Ça permet de faire un truc un peu plus complet que juste une to-do list parce qu'il faut souvent installer des dépendances pour pouvoir gérer les formats de fichiers. Il faut jouer avec le système, lire les fichiers, écrire des fichiers, etc. Donc il y a plein de choses plus intéressantes d'en faire un projet comme ça pour découvrir quelque chose plutôt que de faire une to-do list à la con. Au départ, parce que ça a quand même bien évolué, c'est orienté création d'un site statique. Je veux dire par là qu'on a notre petit projet dans lequel on a nos contenus, etc. Et puis quand on lance le processus de construction du projet, on se retrouve avec des pages HTML. Point. Donc après, il faut déployer ça quelque part et tout et tout. Ça s'arrêtait là au départ. Et un des points très très forts, c'était que c'était très orienté contenu. Donc il y avait ces histoires de collection de contenu qui nous permettent de structurer un petit peu nos contenus. Il y a aussi des plugins pour faire les RSS, les sitemaps, des choses comme ça. Au fur et à mesure, il y a toute cette mouvance de ce qu'ils appellent les îles, islands, qui nous permettent d'ajouter dans nos pages statiques des composants qui sont faits dans d'autres frameworks. Donc, dans une page web qui est créée avec Astro, on peut importer un composant Svelte et l'utiliser dans notre page. On peut importer un composant React et l'utiliser dans la page. Donc ça, c'est assez cool parce que ça donne le choix d'utiliser des choses dynamiques seulement aux endroits où on a envie de faire des choses dynamiques. Ça va un peu à l'inverse des histoires de la plupart des autres frameworks et puis des outils qui leur sont associés où là, il faut tout faire dans le langage, dans le framework et on se retrouve avec quelque chose qui est englobé dans le framework même si c'est complètement statique et pour lequel il n'y a pas besoin. Alors, c'est des choses qui ne seront pas re-rendues en général si ça ne bouge pas, mais en fait, ça ne sert à rien. Astro, il donne cette possibilité-là, et ça, c'est vraiment, je trouve, super important. Et moi, j'aime beaucoup, en plus, cette idée d'avoir le choix d'utiliser ce que je veux à l'endroit où je veux l'utiliser. J'ai commencé par Svelte parce que c'est un framework que j'affectionne particulièrement, mais on peut mettre plein d'autres frameworks. Je vais ouvrir la doc, docs.astro.build, pardon, et si je vais dans les intégrations... Alpine.js, Preact, React, Solid.js, Svelte, Vue. Donc ça couvre quand même la plupart des gros noms des frameworks web. Et j'étais très content qu'il y ait du Svelte et du Alpine. Parce que Alpine, ça me rappelle le bon temps de Angular.js avant que ça devienne Angular tout court. J'ai fait un projet avec, hein, c'était bien. Je pense que j'en referai pas, même si je crois que le framework a quand même bien évolué et c'est un peu simplifié. Donc plusieurs frameworks qu'on peut utiliser un peu n'importe où. C'est vraiment chouette parce que ça, je l'ai déjà dit, mais ça donne le choix. On peut aussi le déployer un peu n'importe où. Donc on peut générer un site complètement statique. Du coup, là, c'est vraiment n'importe où. On peut faire un site avec du rendu serveur. Et donc là, on peut l'envoyer sur tous les trucs un peu connus, les Cloudflare, Netlify, Vercel, Node, etc., etc. Alors moi, je déploie sur Vercel parce que j'ai pas trouvé d'alternative aussi bien qui soit pas des États-Unis et lié à AWS. J'ai cherché, hein, mais c'est compliqué. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et c'est un peu dommage. Et puis, c'est vrai que le confort de Vercel et que ce soit gratuit pour l'usage que moi j'en ai, c'est vraiment le top. Et je vais pas... déployer 3 nœuds Kubernetes pour pouvoir servir mon site, quoi. Même si j'y ai pensé. Il y a des trucs rigolos dans Astro, par exemple AstroDB, qui permet de, bah, d'avoir des petites bases de données, pas du SQLite, pour pouvoir stocker des données. Donc il y a des services comme, ça s'appelle comment? Turso, pour pouvoir faire du SQLite dans le cloud. Les composants Astro, il y a un bloc Node, enfin JavaScript ou TypeScript, en entête, qui va servir à charger des données ou initialiser des variables et des choses comme ça. Ensuite, on a de l'HTML, pur HTML, et une partie CSS, pure CSS. Bon, il y a un petit peu la logique avec tu vois, des conditions pour afficher ou pas tel ou tel truc en fonction des valeurs. Mais on s'y retrouve quand même assez bien quand on vient du monde HTML, CSS, quoi. Donc tout ça s'organise dans un dossier page, parce que par défaut c'est un site statique, donc ça génère des pages. Oh, pip pip, le couscous est cuit. On peut avoir donc des pages .astro qui vont rendre des pages donc statiques. On peut avoir des pages dans lesquelles on met ou dans le nom de la page, on met crochet, le nom d'une variable, crochet, ou point 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 le nom de la variable si on veut avoir des URL avec des slash à l'intérieur qui vont rediriger vers cette page là, ce qui va nous permettre de récupérer la variable dans l'entête Node JavaScript TypeScript et on va pouvoir rendre une page. Par exemple, moi sur mes sites, mais je construis une page par billet de blog et j'ai pas une page astro par billet de blog. En fait, j'ai un crochet point 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 ID .astro et ce truc-là va être rendu, va me permettre de générer toutes les pages en allant chercher le contenu qui va bien. Ça, c'est assez cool. Les endpoints, donc on peut faire en mode serveur, voire en mode statique si on veut faire du JSON. On peut faire des fichiers type JavaScript ou TypeScript, et puis en mode serveur rendu serveur, des fichiers point JavaScript ou TypeScript qui servent d'API. Donc ça, c'est quand même plutôt chouette. Donc ça s'appelle le endpoint. Et il y a un truc que moi j'ai jamais utilisé parce que mais je sais pas encore si ça marche partout. Ce sont les transitions de vue. Comment ça s'appelle? Est-ce qu'il y a du français dans la doc? Français. Les transitions de vue, exactement. Pour pouvoir bah, faire des transformations entre les pages pour faire des choses rigolotes, quoi. Donc, découpage en composants, on peut avoir des layouts, et puis il y a le slot qui permet de passer quelque chose dans un certain à une certaine place du composant qui l'englobe. Un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est toute la partie gestion des images. Par défaut, il recommande d'ajouter une dépendance qui s'appelle Sharp. Et donc, quand on met une image, ce sera une image avec un truc d'Astro à importer dans Astro 2.assets. Qui permet de faire de la conversion ou de la redimensionnement d'images, etc., etc. Donc ça va permettre d'automatiser automatiquement nos images. Il y a la même chose avec Picture, me semble-t-il, pour pouvoir avoir des sites qui soient assez performants, quoi. Le but d'Astro, comme c'est du statique, c'est que bah, il y ait le moins possible de JavaScript à envoyer au client, parce que c'est toujours avec les frameworks, même si ça a changé et que maintenant on arrive à mieux découper, etc., le JavaScript c'est quelque chose qui a longtemps et qui continue de peser très très lourd dans les pages web. Quand on veut mettre Astro à jour, il y a @astro.js slash upgrade, donc à utiliser avec votre gestionnaire de paquets préféré, qui est PNPM, bien entendu. Et donc, Astro va permettre de mettre automatiquement à jour les dépendances Astro quand il y a des nouvelles versions qui sortent, quoi. Donc ça, c'est assez pratique. Ils ont aussi des guides de mise à niveau pour les grosses versions, donc à lire absolument. Alors moi, j'ai commencé, j'ai un doute si c'était en version 1 ou version 2. Et la première fois que j'ai essayé, il n'y a rien qui fonctionnait. Donc j'ai abandonné. Il me semble que c'était version 1. Et quand c'est sorti en version 2, je me suis dit, allez, il faut quand même que je réessaie parce que l'idée, elle a l'air bien avec les îlots. Le fait de pouvoir mettre plusieurs frameworks, etc. Et il me semble que c'était en version 2, et là je me suis dit, ah ouais, c'est génial, quoi. Et donc, Astro, moi c'est ce que j'utilise sur mes sites, c'est ce qu'on utilise au boulot pour plusieurs trucs. On n'a pas encore réussi à tuer le WordPress de notre site principal, mais c'est vrai qu'on y réfléchit un petit peu et que c'est une envie qui revient souvent, quoi. Ils ont, je pense, des partenariats avec plein de CMS différents pour pouvoir utiliser, alors de CMS headless la plupart du temps, voire un WordPress, mais qu'on utilise en mode headless, pour pouvoir utiliser les contenus qui sont créés sur ces outils-là pour générer des pages. Donc ça, c'est vraiment top. Le seul truc que je regrette un peu dans Astro, c'est au niveau des tests. Parce que Astro met un poids très très fort sur le côté collection de contenu. Et en fait, dans les tests, ça ne marche pas. Et je trouve que c'est vraiment dommage que cette chose-là ne soit pas de base dans les outils possibles, dans les outils de test, quoi. Ou même avec un outillage qui permet de faire des mocks d'un contenu Mardin, etc., etc. Donc pour tester, il y a une doc un peu pour la test, pour faire des tests. Moi, j'avais suivi ça avec Vitest et ça marche plutôt bien. Dans les tests, dans leur exemple, il y a un render to string qui permet de rendre un composant Astro sous forme de string. Et là, moi, j'ai eu des galères parce que il y a des choses qui changent tout le temps. Donc, le premier, c'était quand on a des images dedans, il faut changer, remplacer certains chemins vers les images pour être sûr de ne pas avoir le chemin complet. Donc, il a fallu que je remplace avec une regex pour que ça mette un chemin correct et pas un chemin qui remonte jusqu'au user dans mode test. Et du coup, sur l'intégration continue, ça ne pouvait pas fonctionner parce que c'était différent de ce que moi j'avais en local. Donc ça m'a pris pas mal de temps pour trouver la regex et puis pouvoir remplacer ça. Il y a aussi des data Astro CID sur les balises HTML. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent être différentes sur l'intégration continue et en local. Donc c'était un peu compliqué. Et je reviens sur le render to string là. Ça, c'est pas mal. Ça suffit pas quand on a envie de faire des tests un peu plus poussés. Déjà parce que le contain, en général, ça suffit pas. Donc on peut faire des snapshots, mais avec le render to string, ça c'est OK. Mais on peut ajouter aussi une librairie comme Cheerio pour pouvoir prendre ce string, le mettre dans un parseur HTML et avoir quelque chose qui nous permet de faire de la sélection, un peu comme le document.querySelector, etc. Donc il y a eu des petites bidouilles à faire pour les tests qui étaient pas très rigolotes. Et ce côté content de collection qui marche pas dans les tests, ça c'est assez regrettable, quoi. Voilà, je crois que c'est la fin de ce petit épisode sur Astro. Moi je suis toujours très content de travailler avec Astro. Je pense que c'est quelque chose qui ralentit pas trop quand on a envie de faire des choses. Donc voilà. Utiliser Astro, c'est vraiment trop bien. Essayer de faire des tests, parce que c'est bien de faire des tests aussi. Alors on peut faire du Playwright, du Cypress, etc. Mais ça, je ne suis pas encore rentré dedans. Il faudra que j'essaie de m'y mettre. Et faites des sites statiques et puis des CMS headless, parce que c'est quelque chose qui est vraiment chouette aussi, quoi. Voilà, je vous fais plein de bisous et à très bientôt dans un prochain épisode. Et pour m'écrire comme toujours, fullstack@zig.fr. Salut !